Alors, on va commencer cette deuxième heure avec Dominique Champagne. Et évidemment, on voulait parler avec lui, comme à chaque mardi, d'environnement, de climat. Sauf que Dominique rentre dans le studio puis il me dit « Ta candeur t'honore ». Puis je dis « Qu'est-ce que tu veux dire? » Ben il dit « Écoute, je t'entendais dans la voiture ou... » Non, toi, tu voyages pas en voiture. Tu m'entendais...
Non, dans ma voiture électrique.
Ah, ta voiture électrique. Oui. Très bien. tu m'entendais dire que j'étais un peu jeté par terre par l'information sur... Dans le fond, la facilité avec laquelle quelqu'un peut prendre le contrôle de notre téléphone intelligent, là, même pas besoin d'être un pirate, t'as juste allé sur Google, puis il y a des logiciels qui peuvent te permettre, dans le fond, de faire le truc, là. Et donc, je m'étonnais de ça. Et toi, tu me dis, regarde, moi, je prends pour acquis que c'est assez facile pour quelqu'un de prendre le contrôle de mon cellulaire.
Moi, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Tu viens de consulter une experte là, en la matière. Moi, je ne suis pas très théorie du complot, a priori, mais j'ai beaucoup fréquenté les rapports, les livres, la littérature sur Edward Snowden, qui pour moi est un grand héros là, des dernières années, qui a révélé à quel point on était surveillés, espionnés, non seulement les Américains, mais l'ensemble des Occidentaux, si ce n'est pas les milliards de citoyens sur cette terre. Et regarde, fais juste l'exercice. Tu vas sur Google, puis tu tapes Bernard Drainville, puis une seconde après, tu as des dizaines de milliers d'informations possibles à ton égard. Ça a pris trois secondes. Donc, la technologie d'un mot-clé d'informations qui se ressortent strictement d'un mot-clé. Aujourd'hui, nos téléphones sont aussi... On sait, il y a des micros. Il semblerait même que dans certains téléphones intelligents, il y a plusieurs micros. Ces micros-là peuvent être activés à distance et donc nous écouter. Présentement, là, il n'y a pas juste le micro dans lequel je parle qui peut nous écouter, mais le téléphone qui est à côté de moi...
Mais moi, j'ai toujours pris pour acquis que les autorités pouvaient, s'il y avait une bonne raison, de nous mettre sous écoute. Bon, on a compris que souvent, ils nous écoutent sans avoir une bonne raison. Mais je n'ai jamais pensé que c'était à ce point facile, même pas pour un whiz, même pas pour un nerd de l'informatique. Quelqu'un qui est un petit peu débrouillard va sur Internet, est capable de mettre la main sur un logiciel puis est capable de l'installer après ça sur mon cellulaire. Dans le fond, il est capable de pénétrer mon cellulaire. Puis
tout à fait.
Bon, ça pour moi, ça, c'est, écoute, peut-être que je suis innocent, là, mais ça, cette facilité-là, là, ça, moi, j'en suis renversé.
Il y a des gens qui passent beaucoup plus de temps devant leur écran à faire toutes sortes de choses plutôt que face à la réalité, on va le dire comme ça, là. Et Edward Snowden est un de ceux-là, c'est-à-dire qu'il était devenu un hacker professionnel, très, très, très doué, très intelligent, très, très instruit, à un point tel que les services secrets américains l'ont engagé pour qu'il puisse opérer à grande échelle pour mettre au point le meilleur système de surveillance au monde. Et à un moment donné, lui a eu des sacrés problèmes de conscience sur la capacité que l'État s'est donnée à rentrer dans nos vies privées. Et c'est sûr que nos téléphones entendent ce qu'on dit, entendre des mots-clés. Et à partir de on sait que tout ça peut se retrouver dans des clouds, là, dans des nuages, ailleurs. Et
donc,
dans des serveurs. Donc, ce data-là, ces données-là, elles existent et elles sont... Et à qui elles appartiennent? Il y a eu tout le scandale de Cambridge Analytica qui aurait, tu sais, sur la base... De stratégie électorale favorisée grandement l'élection de Trump. Là, il y a un documentaire fascinant sur Netflix là-dessus. Là, alors, on n'est pas à l'abri de personne. Big Brother nous surveille.
Ben vraiment, il y a pas vraiment. De doute. Et juste avant qu'on parle du Danemark, je veux juste relayer aux auditeurs le courriel de Yvon là, qui m'a dit « Sur la sécurité du cellulaire, en cas d'incertitude, il est facile de remplacer sa carte SIM. Ça coûte entre 5 et 10 $ chez Bell, bon, par exemple. Et on peut configurer une nouvelle carte et ils pensent que c'est la même situation pour les autres fournisseurs. C'est important pour moi que je vous transmette cette information-là parce que s'ils vont dire vrai, il y en a une solution puis qui n'est pas trop, trop chère. Il faut juste changer sa carte SIM. Voilà, je referme cette parenthèse. Parlons un petit peu du Danemark. Pourquoi tu veux me parler du Danemark, mon cher Champagne?
C'est une nouvelle importante puis c'est relié au sujet qui m'occupe. Hein. On sait qu'on est dans une situation d'urgence climatique. Urgence de quoi?
Oui.
Réduire nos émissions de carbone.
Oui.
Vendredi dernier.
Oui.
Dans le Parlement à Copenhague et dans le Parlement de Québec, il se passe deux choses simultanées qui vaut la peine de mettre en parallèle aujourd'hui. Les Danois, on va partir du Québec. Pendant qu'à Québec, vendredi dernier, le gouvernement refuse de voter une motion qui reconnaisse la cible des 45 % de réduction que la science nous demande d'atteindre pour 2030. On sait que le ministre de l'Environnement est aujourd'hui à Madrid, donc la veille de son départ.
Pour la COP.
Pour la COP. Alors, on soumet une motion à l'Assemblée nationale où on dit, est-ce que le gouvernement du Québec est prêt à s'engager à reconnaître les cibles nommées par la science, par la connaissance objective de milliers de scientifiques et donc de s'engager à les atteindre? Et le gouvernement du Québec refuse d'adopter la motion. Pendant ce temps-là, le gouvernement du Danemark et sept autres partis représentés au Parlement de Copenhague se mettent d'accord pour l'adoption d'une loi sur le climat contraignante. Alors là, on sait qu'on s'en va en commission parlementaire en janvier prochain, commission à laquelle je vais participer sur la gouvernance à l'égard de la lutte au réchauffement climatique
au
Québec.
Le fonds vert et tout
le fonds vert et compagnie.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, le gouvernement du Danemark vient de s'engager légalement à réduire les émissions de gaz à effet de serre avec des cibles de réduction, pas de 37,5 % comme le Québec a dit qu'elle allait faire, ce qui n'est pas fait encore, pas de 45 % comme la science nous dit qu'à l'échelle de la Terre, on devrait le faire, mais des cibles de réduction de 70 % pour 2030.
Okay, mais là, Dominique, j'ai le goût de te dire, OK, rendu là, 70, 80, 85. Honnêtement, là, est-ce que le Danemark va vraiment, en l'espace de 11 ans, diminuer de 70 % ses émissions? Dominique, à sa face même,
oui,
ça me semble fantaisiste.
Non, parce que c'est une société qui, depuis un certain temps, a amorcé un important virage dans les énergies renouvelables et visant à s'éloigner du pétrole au maximum.
Oui.
Et on est doté au Québec d'un potentiel aussi grand que celui du Danemark, sinon plus grand.
Ça veut dire quoi, contraignant? Qu'est-ce qui arrive, mettons, là?
Ça veut dire que dans le projet de loi, là, que je n'ai pas lu en détail, mais j'ai les grandes lignes, là, c'est que le gouvernement actuel et les gouvernements précédents vont être obligés de respecter appelons ça un budget carbone. C'est comme la loi des anti-déficits qu'on
a passé
ici. On se dit, on va arrêter de faire des déficits, on va arrêter de pelleter dans les générations plus tard le poids de notre rythme de vie. Donc, il y a des choix de société importants à faire et on va respecter notre budget. Alors, le budget qu'il importe de respecter par les temps qui courent, c'est le budget carbone, qui est une notion qui n'est pas très populaire. Et là, il y a un gouvernement au Danemark qui dit, non seulement nous allons nous donner un plan pour atteindre les cibles, mais les cibles, on va les élever à la hauteur de ce qu'on pense que la justice climatique exige.
Dans les faits, ce qu'ils se disent, les Danois, là, donnons-leur le bénéfice du doute, mettons qu'ils ont effectivement des chances d'y arriver et qu'ils ont un plan de match pour arriver à moins 70. On peut penser qu'ils ont déjà un bon bout de fait, honnêtement. S'ils disent moins 70, probablement que le moins 45, il est atteignable ou peut-être même déjà atteint.
C'est le plus difficile à atteindre, par contre. Tu sais, quand les pays qui sont gloutons énergétiquement, donc qui en pèlent beaucoup de carbone, ils ont plus de capacité à réduire que ceux qui sont déjà à l'os, si tu veux.
Mais c'est pour ça que je te dis.
Donc, les derniers
passer de moins 45 à moins 70, c'est
énorme.
Beaucoup plus difficile.
C'est énorme,
bon,
exactement.
Mais donnons-leur le bénéfice du doute, OK? Mettons qu'effectivement, ils ont les moyens pour y arriver. Ce que les Danois se disent, j'imagine, rendu là, parce que la science leur demande pas de réduire autant, c'est de dire, bon, ben on sait qu'il y a des pays qui arriveront pas au moins 45, fait que nous autres, d'une certaine manière, on va compenser en diminuant encore davantage que ce qu'on devrait.
Donc, on applique au Danemark cette notion de justice climatique, c'est-à-dire que quand la science nous dit qu'il faut réduire de 45 %, c'est à l'échelle du monde. Mais il y a des pays qui n'ont pas les moyens autant que les pays industrialisés, les pays plus riches. On sait que les pays industrialisés sont responsables là, d'à peu près 75 % du problème des émissions de carbone. Donc, nécessairement, logiquement, objectivement, les pays plus riches, plus grands émetteurs, devraient réduire de plus de 45 % si globalement il faut. Donc, les
pays riches, 75 % des émissions?
Oui.
Ça exclut la Chine et l'Inde,
non,
ça?
Non,
incluant la Chine et l'Inde.
Le G20. Je crois que la Chine
est
partie
de l'Inde.
C'est le
G20. Oui, les deux font partie du G20. Je l'avais vérifié. Donc,
ces économies émergentes-là font partie du problème. Donc, logiquement, si la science nous dit moins 45 % d'ici 2030, à l'échelle de la planète, il y a des pays qui doivent prendre de plus grandes responsabilités. Alors moi, aujourd'hui, je suis fier d'être Danois. Je travaille présentement sur Hamlet. Hamlet, c'est le grand héros tragique à qui le ciel parle. Son père lui apparaît dans le ciel, son père qui vient d'être assassiné, et il lui révèle la vérité et lui met une arme dans les mains en lui demandant de le venger. Et Hamlet, sa réponse, c'est « il y a vraiment quelque chose de pourri sous le ciel du Danemark
oui. ».
Mais moi, je pense qu'il commence depuis vendredi à y avoir une éclaircie dans le ciel du Danemark qui devrait nous inspirer. Ça serait le fun d'être fier d'être Québécois à cet égard-là, de dire « avec le potentiel qu'on a, avec la connaissance qu'on a, avec notre capacité énergétique privilégiée dans le monde, qu'on puisse être dans le peloton de tête. »
Tu voudrais qu'on soit le Danemark des Amériques.
Oui, je voudrais que mon gouvernement, fièrement, celui d'une véritable coalition qui fédère tout le monde au Québec, dise
bon.
On va pas se limiter au moins là, à 37,5. On va y aller au moins à ce que la science nous demande, 45%, et pourquoi pas suivre l'exemple extrêmement inspirant, encourageant, enthousiasmant des Danois.
OK. Bon, par ailleurs, tu parles du gouvernement. Tu devais être fier, parce que tu dis « j'aimerais ça être fier de mon gouvernement ». Tu devais être fier de lire la nouvelle de Denis Lessard ce matin à l'effet que Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement, va, quelques temps après Noël, rapidement après Noël, annoncer qu'on va non seulement récupérer puis mettre en place une consigne sur les bouteilles de vin, sur les bouteilles de verre, mais aussi sur les bouteilles en plastique. Puis il va y avoir un système de dépôt où on va pouvoir donc rapporter nos bouteilles d'eau en plastique. Rappelez-vous, là, on en consomme 1 milliard de bouteilles d'eau en plastique, nous autres, les Québécois, chaque année. 1 milliard chaque année. Et là, on va pouvoir les rapporter puis obtenir, je ne sais pas, ça va peut-être être 10 cents la consigne, on verra bien. Là, Dominique Champagne, en bon environnementaliste, il est content. Okay. Là, il est fier de son gouvernement.
OK, les gars, je ne vais pas bouder mon plaisir. Là.
Bon.
C'est une excellente nouvelle.
Bon, excellent.
Ceci dit,
bon.
Bernard, toi, moi,
oui.
La majorité des Québécois, on est d'accord qu'on a un sacré problème avec le plastique, puis on est massivement d'accord sur l'idée qu'il faut améliorer la consigne.
Oui.
Sachant d'autant plus
qu'il
y a des systèmes qui fonctionnent très bien au Canada, aux États-Unis, puis que nous autres, on est vraiment là...
On est les derniers de classe.
On est derniers de classe, semble-t-il, avec le Manitoba, ce que l'article de Lessard nous dit.
C'est
donc,
ça.
On ne va pas bouder notre plaisir, parce que c'est important de le faire. Et j'ai hâte de voir, là, est-ce que le plan, tu sais, le gouvernement qui se dit pragmatique, va-t-il être pragmatique au point de nous apporter un système efficace? Il est permis de l'espérer.
Bon.
OK, donc je salue pour une fois que je vais le faire, c'est content, je t'ai jamais vu sourire comme ça. Je salue la décision du gouvernement, mais, OK, je pense qu'il est important de rappeler que le faut pas que ce genre de bonnes nouvelles fasse écran de fumée sur l'urgence qui nous occupe. Et l'urgence qui nous occupe, c'est beaucoup plus important de se donner un plan pour atteindre nos cibles de réduction de carbone que de s'occuper de la consigne.
Oui.
C'est beaucoup plus important.
Mais l'un va pas sans l'autre. Honnêtement, quand on va dans le sud, là, puis on voit notamment, là, puis on a vu des images affreuses là, de toute cette mer de plastique là, qui pollue les océans, les grands plans d'eau. Il faut aussi protéger la vie sur Terre.
Absolument, là. Absolument, c'est... absolument. Alors, mais c'est juste qu'il faut s'assurer que notre bon gouvernement ne parlera pas des deux côtés de la bouche en même temps. Il y a 2 semaines, le gouvernement nous annonce fièrement qu'on va on va agrandir la surface des aires protégées au Québec.
Oui, oui, oui.
OK? Mais on vient de donner, la semaine dernière, un passe-droit à l'industrie. On décide que le caribou forestier, dans certaines forêts, là, au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, c'est pas important. Puis que là,
ils disent qu'il est disparu de ces forêts-là.
Voilà, mais il y a quand même des scientifiques qui disent
que... Donc, on peut les couper. Il y en a qui disent, c'est pas si sûr que ça qu'il est disparu.
Alors, dans le doute,
si on les coupe, c'est sûr qu'ils reviendront pas.
Voilà. Alors, est-ce qu'on peut éviter de parler des deux côtés de la bouche en même temps et de s'assurer qu'on avance rigoureusement, qu'on soit vraiment fier all the way, pas juste fier sur les bouteilles de plastique, et j'en conviens qu'il faut s'occuper du problème, mais que par ailleurs, on crée aussi des gestes qui continuent de nourrir la dégradation. Parce que le problème dont toi et moi et tout le monde, on est contemporains, c'est que oui, il y a des solutions, il y a des progrès qui se font. Mais la dégradation continue à un rythme beaucoup plus grand que les progrès qu'on fait. Et c'est cette tendance-là qu'il faut
renverser.
Puis toi et moi, on est nés dans un monde, je pense, à l'âge qu'on a, que les bouteilles de plastique, ça existait à peu près pas.
Non, ça existait pas.
Et il y a personne qui est mort de soif dans mon enfance et les générations qui nous ont suivis. Et les bouteilles de plastique n'existaient pas. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a l'idée d'utiliser le pétrole pour en faire des bouteilles de plastique. Et visiblement, c'était une excellente idée parce que ça a proliféré à l'échelle du monde.
Ça répondait à un besoin.
Mais nous avons créé un grave problème. Et là, c'est le temps de régler ce genre de problème-là. Alors, il faut prendre les taureaux par les cornes. Et je voudrais conclure sur les 5 R. Est-ce que tu sais ce que c'est que les 5 R, Bernard? Je te les ai apportés ici.
Bien là, il y a... OK.
Oui, alors allons-y, vas-y.
C'est parce que t'en ajoutes un, là. C'est quoi? Refuser, c'est ça?
Le premier, c'est refuser.
Refuser, hein?
Alors, le plus beau, ce serait bouteille de plastique, non merci.
Oui.
OK, j'ai ma gourde, il y a un abreuvoir, là, l'eau est potable. Bon, alors refuser, c'est le premier geste. Le deuxième, c'est réduire.
Oui.
Parce que j'ai bien soif, j'ai oublié ma gourde, il n'y a pas d'abreuvoir, il y a des bouteilles de plastique disponibles qui sont là. OK, d'abord.
Donc, mais
de temps à autre, je vais en prendre
une. Mais je vais aller la remplir plutôt qu'en prendre une nouvelle.
Alors,
à chaque
ça, c'est le troisième, c'est-à-dire, il y a réutiliser.
Oui.
OK. Donc, t'en as une bouteille, bien, réutilise-la plutôt que de l'acheter à toutes les fois ou bien d'aller la porter au recyclage. Ensuite, il y a, ça s'applique pas aux bouteilles, mais il y a réparer. Le quatrième R, c'est réparer. C'est que souvent, on achète des choses quand elles sont brisées et le système fait en sorte que souvent, c'est moins cher d'aller t'acheter une nouvelle imprimante que de faire réparer ton imprimante.
Ah, mais ça me fait capoter.
Alors là, ça, il y a des lois qui sont en cours. J'ai travaillé l'hiver dernier avec des étudiants en droit de l'Université de Sherbrooke qui sont allés déposer un projet contre l'obsolescence programmée.
Oui.
Alors donc réparer, qui va valoriser les réparateurs. Puis
on va en parler en troisième heure avec lui.
Et le dernier des 5 R, c'est recycler. Donc, la consigne, le recyclage fait partie de la consigne.
Mais ça vient à la fin.
C'est la dernière. Donc, refuser, réduire, réutiliser, réparer et puis, ultimement, recycler.
Dominique Champagne, je te remercie.
C'est toujours un plaisir.
Ah oui,
de
vraiment.
Plus en plus.
Vraiment.
Ouais,
je suis
pas.
D'accord. Je suis d'accord. T'en reviens pas toi-même. Hein? Tu pensais pas qu'on
allait avoir
du fun tant
que ça. C'est-à-dire qu'on partait quand même de. On avait eu un échange assez serré, si tu te souviens, notre baptême de feu.
Oui, oui.
Et puis là, tu vois, tu me donnes espoir, Bernard. Je me dis, tiens, il y a les mentalités changent, puis éventuellement, les comportements vont changer.
La semaine prochaine, c'est notre dernière avant Noël, puis tu vas nous faire un cadeau.
Je vais vous faire un cadeau.
Tu vas nous raconter comment c'était avec Greta.
Avec
Est-ce
plaisir.
Que tu me permets?
Avec plaisir. Avec plaisir.
OK, puis je veux pas que les auditeurs pensent que je te mets mal à l'aise. Je t'avais posé la question avant, à micro fermé, serais-tu à l'aise pour en parler? Et j'aimerais ça que tu nous
partages. J'ai eu le privilège d'être l'hôte de Greta Thunberg quand elle était ici. Et c'était vraiment une rencontre pour moi, évidemment, déterminante. Je dirais pour le meilleur et pour le pire. Alors, ça va me faire plaisir la semaine prochaine.
Puis tu
garde mon cadeau de Noël.
Garde-nous la primeur.
OK.
Parle-en pas à d'autres.
J'en ai parlé un peu déjà. C'est-à-dire que c'est pas un truc que j'ai tenu secret.
Non, mais t'es pas allé dans le détail.
On ira.
Là, je vais te cuisiner un peu.
OK.
À la semaine prochaine.